Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant intervenue pour le rachat des iniquités commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes très chers frères, nous voici arrivés au dimanche de la Passion. Nous sommes déjà entrés dans le temps de la Passion. La pénitence s'intensifie, sinon du point de vue du jeûne et de l'abstinence, du moins du point de vue de la qualité. C'est-à-dire que c'est toujours la même discipline que la discipline du carême, mais nous allons être munis d'une doctrine plus précise de la rédemption. Toute cette semaine, nous allons méditer sur la rédemption que notre Seigneur nous a acquise. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera la liturgie de notre rédemption. Nous vivrons liturgiquement les dernières étapes de notre rédemption accomplie par notre Seigneur. Entrons dans ce temps de la Passion avec un esprit bien disposé. Et un esprit bien disposé, c'est un esprit qui aime Dieu. Et c'est un esprit qui connaît aussi Dieu, et c'est pour cela qu'il nous faut écouter ce que nous enseigne l'Église en ce dimanche de la Passion. Dans un premier point, avec l'aide du Saint-Esprit, nous dirons un mot sur la manière comment le Christ est notre souverain pontife, notre grand prêtre. Nous verrons ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Ensuite, dans un deuxième point, nous développerons ce thème qui revient souvent dans nos sermons, c'est que le pardon que Dieu nous a acquis, que le Fils éternel de Dieu nous a acquis, est gratuit pour nous, mais très coûteux pour Dieu. Et nous terminerons par un troisième point où nous verrons brièvement comment Dieu reste le seul dispensateur de ce pardon gratuit et comment l'homme n'en veut pas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Le temps de la Passion est le temps, représentent les deux dernières semaines du carême. C'est un temps spécial au sein même du carême. Comme vous l'avez vu, les images ont été toutes voilées. La liturgie nous fait réduire le nombre de Gloria Patri, c'est-à-dire que nous sommes dans une perspective, grâce à la liturgie, qui nous fait examiner, année après année, les raisons de notre rédemption. Le Christ, dit saint Paul, le Christ est apparu comme le grand prêtre des biens à venir. Cette épître est très doctrinale. Nous avons, dans le dimanche de la Passion, la doctrine. Dans les trois derniers jours dans la Grande Semaine et dans les trois derniers jours de la Semaine Sainte, nous aurons les actes de cette doctrine. Cette doctrine réalisée, elle a été réalisée une fois pour toutes, il y a 2000 ans, mais il se trouve que grâce à la liturgie, elle est toujours présente, elle n'est pas refaite, c'est toujours elle qui se présente à nous. Le Christ est le grand prêtre des biens à venir. Pourquoi des biens à venir? Eh bien, c'est parce que, mes très chers frères, notre héritage est dans les cieux. L'œuvre de rédemption du Christ n'a pas eu pour but l'amélioration de la vie temporelle, elle n'a pas eu pour but d'effectuer un changement de société où les hommes seraient plus ceci ou moins cela. Elle est la puissance d'user. Le but de la rédemption est de nous obtenir la puissance d'user de cette vie ici-bas, telle qu'elle est normée par Dieu et par sa volonté, par sa loi, d'user de la vie d'ici, des choses de la vie d'ici-bas pour notre sanctification. Nous restons des étrangers et des pèlerins sur terre. Nous ne sommes pas plus citoyens du monde depuis que le Christ est venu. Nous le sommes, si j'ose dire, moins, si tant est que nous l'ayons jamais été, puisque nous voyons Abraham être appelé hors de sa patrie pour aller dans la Terre Sainte qui représente le ciel. Nous voyons avant lui, Noé, être arraché au monde que Dieu va détruire pour être sauvé par le moyen de l'arche qui est la figure de l'Église. Toute l'œuvre du Christ a pour but de faire des enfants du diable, des enfants de la colère, des enfants de Dieu. Si nous oublions ceci, nous oublions l'essentiel du christianisme, nous ne comprenons plus rien. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ne faisait que des esclaves. C'est le Christ qui, en ayant expié les péchés, que les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir et remettre temporellement, le Christ a expié les péchés de telle sorte qu'il est la fin de la loi. L'Ancien Testament ne faisait que des esclaves, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, fait des fils. Et ce sont des fils de Dieu que nous devons être, des enfants de Dieu que nous devons être, mes très chers frères. Saint Paul nous dit que le Christ, en tant que grand prêtre des biens à venir, a passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à sa création. Les commentateurs de ce passage difficile à comprendre, de prime abord, les commentateurs nous disent qu'il s'agit ici du tabernacle ou du temple de son corps, c'est-à-dire de son humanité sainte. Le Christ est, nous disent les commentateurs, la voie pour aller au ciel. D'ailleurs, il le dit lui-même, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Le Christ, c'est-à-dire le Verbe éternel de Dieu, fait chair de la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, pour nous les hommes et pour notre salut, est véritablement le temple de Dieu authentique, le modèle du temple terrestre. Si Moïse a vu sur le mont Sinaï, dans les cieux, le modèle du tabernacle qu'il devait réaliser ici en bas, avec du bois, avec des tissus précieux, avec de l'or, etc., il sait que ce modèle n'était autre que le corps même du Christ, l'humanité sainte du Christ, son corps et son âme, bien sûr, son humanité sainte. Ce tabernacle, dans lequel le Christ n'est pas venu comme dans le tabernacle d'ici-bas, avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, c'est l'humanité sainte qu'il a tirée de la très sainte Vierge Marie. Et les Juifs ont détruit ce temple en le crucifiant, en le faisant crucifier par les Romains, et il l'a rebâti, comme il avait dit, en 3 jours. Le troisième jour, il ressuscitait des morts. En 3 jours, il a rebâti ce temple. Non pas le temple matériel, mais l'exemplaire céleste, l'exemplaire véritable du temple d'ici-bas. C'est à ce temple qu'il faut appartenir, mes très chers frères, pour être sauvés. On devient pierre des murs de ce temple par le baptême. On devient membre de ce temple vivant par le baptême. Sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Sans le baptême, il est impossible d'entrer dans l'Église, de telle sorte que, par le baptême, nous sommes faits membres du corps mystique du Christ, qui est le vrai temple, comme nous venons de le dire. Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors du temple. Qui n'appartient pas à cette création, l'Écriture sainte. Donc, ça signifie que, non pas que notre Seigneur n'a pas une humanité que son humanité est fausse, mais ça veut dire qu'il n'appartient pas à cette création-ci, c'est-à-dire qu'il n'est pas, qui est distinct de la création déchue. Notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, est l'homme innocent. Il est l'homme qu'Adam n'a pas été. Il est le nouvel Adam. Il est lui-même le temple, le sacrificateur et la victime. Il est tout en même temps. Tout ce qui est ici-bas, est tout ce qui a été présenté par exemple dans l'Ancienne Alliance, n'était que la réfraction dans le monde du multiple d'une unique réalité. Ici-bas, il fallait un tabernacle, il fallait un temple, il fallait des sacrificateurs, il en fallait même beaucoup, même s'il n'y avait qu'un seul sacrificateur, un grand sacrificateur, grand prêtre par génération. Il se trouve néanmoins, mes très chers frères, que il fallait des victimes, il fallait des agneaux, des boucs, des taureaux. Tout ceci était la réfraction dans notre monde d'une vérité unique, d'une réalité unique, qui n'est autre que le Christ, le Verbe éternel de Dieu, médiateur entre Dieu et les hommes, rédempteur des hommes, réconciliateur des hommes avec Dieu. On ne comprend rien au christianisme sans saisir, mes très chers frères, la raison du sacrifice. Et quelle est la raison du sacrifice? Nous en donnons plusieurs aspects. Le sacrifice du Christ, notre unique médiateur entre Dieu avec Dieu, la première raison du sacrifice, le premier aspect de la raison du sacrifice, c'est la justice offensée de Dieu par notre premier père. Si notre contrairement à ce que disaient certains théologiens, etc., certains novateurs, il se trouve que si Adam n'avait pas péché, le Christ, le Verbe éternel de Dieu, le Christ n'aurait pas paru, le Verbe éternel de Dieu ne se serait pas incarné, car il a été fait homme pour nous, il a été fait homme incarné pour nous les hommes et pour notre salut. S'il n'y a rien à sauver, il n'y a pas d'incarnation. Donc, la première raison du sacrifice du Christ, c'est la justice offensée de la justice de Dieu offensée par notre premier père. Ne sous-estimons jamais la faute originelle. N'oublions jamais que cette faute originelle, nous l'avons entérinée parce que nous étions en Adam, toute la postérité d'Adam était en Adam au moment de sa chute, au moment de sa prévarication. Ne diminuons jamais la doctrine du péché originel, mes très chers frères, et il se trouve que depuis le XIXe siècle, très curieusement, pour diverses raisons qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, il y a chez les catholiques l'idée diffuse, fausse, qui est sans fondement, mais l'idée que la doctrine du péché originel a été éradiquée. On se demande comment, on se demande pourquoi, par quelles raisons, nous le savons un petit peu, mais il se trouve que c'est comme si au XIXe siècle, le péché originel avait disparu. Et c'est, alors évidemment, ça n'a pas disparu dans le magistère, ça n'a pas disparu dans la tradition, évidemment, sinon l'Église pourrait varier, et alors elle ne serait qu'une secte parmi d'autres. Mais il se trouve que c'est une idée que, et alors au XXe siècle, c'est une idée qu'on trouve au XIXe siècle, et au XXe siècle alors, il se trouve que pour diverses raisons, encore une fois que nous n'énumérerons pas, mais on a eu l'impression que le péché originel était une vérité dogmatique, mais un peu dépassée. Certes, on y croyait, mais il se trouve que le péché originel était, pour ainsi dire, presque réparé, rattrapé, bref, pour diverses raisons. Donc, n'oublions jamais, mes très chers frères, que tout ceci est faux. Tout ceci a mené à une apostasie gigantesque et définitive, qui fait que, quoique personne ne nie le péché originel, des gens, parmi les gens qui se disent catholiques, personne n'en prend plus, ou presque, personne n'en prend plus la juste mesure. Si le Christ est venu, si le Christ s'est sacrifié lui-même, si nous représentons licitement le sacrifice du Christ par les divers crucifix, les images du crucifix que nous avons dans nos maisons, et nous devons en avoir, eh bien, c'est pour nous souvenir qu'à cause du péché originel, le Verbe éternel de Dieu a dû se faire chair pour nous, les hommes, et pour notre salut. À cause de l'offense faite par notre premier Père à la justice de notre Dieu. La deuxième raison, donc, vous l'avez compris, du sacrifice, c'est le péché originel et sa puissance de damnation, de telle sorte que, voyez-vous, il nous aliène définitivement de Dieu et même de notre propre nature, faite pour Dieu. Si le Christ est venu et qu'il est connu comme le Rédempteur et le grand réparateur, c'est parce que le péché originel nous avait tellement déformés que nous n'avions pas perdu l'image de Dieu, certes, parce que sinon nous serions autre chose que des hommes, mais nous étions de toutes les créatures les plus absurdes. C'est-à-dire que même le moustique, même le microbe, même la hyène, même le chien ont leur raison d'être dans l'économie de la création. L'homme qui est fait pour Dieu, marqué par le péché originel, est comme aliéné de sa raison d'être, sans avoir perdu sa raison d'être. Mais sa raison d'être, il est la seule créature ici-bas qui la déteste et qui la combat sans cesse. Notre Seigneur est donc venu pour réparer cette monstruosité qu'est devenu l'homme déchu. On peut dire encore une chose, la suivante, un des aspects de la raison du sacrifice du Christ, c'est la nécessité de la satisfaction. Dieu ne pouvait pas, il n'est pas au pouvoir de Dieu, si j'ose m'exprimer en des termes un peu paradoxaux, mais vrais, il n'est pas au pouvoir de Dieu de pardonner à l'homme sans que l'offense faite par l'homme soit compensée, soit réparée, sans que le châtiment qu'appelle l'offense soit satisfait. Dieu avait dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort ». Notre Père est mort spirituellement, et Dieu ne pouvait pas lui rendre la vie sans que l'offense soit expiée. Mais qui pourrait expier cette offense de l'humanité si ce n'est un homme, véritable enfant d'Adam, mais innocent. Un homme tout-puissant, un homme qui pourrait plaire à Dieu et plaire à Dieu infiniment par son innocence, un homme qui devrait être à la fois vrai Dieu et vrai homme. Voyez-vous, mes très chers frères, le pardon divin est gratuit. L'homme ne peut rien faire pour mériter le pardon de Dieu. Il est absolument gratuit pour l'homme. Nous le recevons sans aucune considération d'aucune chose que nous aurions pu faire en amont. Il est totalement gratuit. Mais, comme nous le disons souvent, ce salut divin, ce pardon divin, a été très coûteux pour Dieu. Disons un mot maintenant de cet aspect d'extrême cherté que Dieu a, du prix de notre salut. C'est notre deuxième point. Notre Seigneur dit aux Juifs au début de cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs, « Qui me convaincra de péché ? Qui de vous me convaincra de péché ? Quiconque qui n'est pas le Christ dirait, proférerait cette phrase, poserait cette question, s'exposerait immédiatement, non seulement à être convaincu de péché d'une manière ou d'une autre par son prochain, mais surtout s'exposerait à la colère de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit Saint Jean dans sa première épître, nous mentons, nous sommes des menteurs. Or, seul le Christ, vrai homme et vrai Dieu, peut dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Pour que la victime soit acceptée par Dieu, il faut qu'elle soit innocente. Cela a été figuré dans l'Ancien Testament par le fait que les victimes devaient être intactes, les victimes devaient être des animaux en parfaite santé, en parfaite intégrité physique. Et c'est pour cela que quand les Juifs eurent pris l'habitude, en tout cas à une certaine époque, d'amener au sacrifice des animaux boiteux, des animaux malades, parce que, un peu comme pour dire que c'est des animaux dont on peut se débarrasser sans grande perte, eh bien Dieu les a sévèrement repris. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu veut des animaux sains plutôt que des animaux malsains. Dieu ne mange pas les taureaux et les boucs, il ne boit pas leur sang, comme il le dit lui-même. Mais il se trouve que c'était péché contre le symbole des animaux purs de l'Ancien Testament, et c'était péché contre le Christ en disant que à peu près n'importe qui pouvait plaire à Dieu en se sacrifiant d'une certaine manière. Seul un agneau sans tache pouvait satisfaire au commandement de Dieu dans l'Ancien Testament. Seule une victime sans tache pouvait être le moyen de l'expiation dans le Nouveau Testament. Or, voyez-vous, mes très chers frères, l'innocence, et ça c'est une chose très importante dont nous devons comprendre et aussi que nous devons prendre pour nous-mêmes, l'innocence radicale, c'est-à-dire l'innocence foncière du Verbe incarné, est incompréhensible au monde. Pour les Juifs, dans cet évangile, le Christ est un Samaritain et un possédé. C'est pour cela, à chaque fois que nous lisons cet évangile, j'ai comme une sorte de répulsion de rapporter les propos des Juifs. N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon ? Comment peut-on dire cela à celui qui est le Verbe éternel incarné pour nous les hommes et pour notre salut ? Et pourtant, cela a été dit. N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain ? Pourquoi un Samaritain ? C'est-à-dire, selon le discours des Juifs, un hérétique. Le Samaritain est un Israélite hétérodoxe. C'est un hérétique. Or, mes très chers frères, dans l'Évangile, nous voyons que le Christ a réfuté la prétention des Samaritains à l'orthodoxie. Quand la femme au puits, Dupuis, la Samaritaine, lui dit « Nous, vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem, et nous, nous adorons ici, etc. Et » et qu'elle fait du mauvais esprit, elle fait la Samaritaine, en quelque sorte. Que dit notre Christ ? Il lui dit « Viendra un jour où nous n'adorerons plus Dieu ni ici ni là, mais que les adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit, en vérité. Néanmoins, dit-il, vous vous trompez, car le salut vient des Juifs. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Donc, nous savons que notre Seigneur n'est pas Samaritain, même si dans les commentaires, il est dit que l'origine du mot samaritain, qui signifie gardien, etc., est honorée par notre Seigneur. C'est pour ça qu'il ne dit pas « je ne suis pas samaritain », il dit « je ne suis pas possédé du démon ». Néanmoins, il se trouve que dans l'absolu, notre Seigneur n'est certainement pas samaritain. C'est-à-dire qu'il n'est certainement pas hérétique, puisqu'il a réfuté les samaritains lorsqu'il leur a prêché le royaume de Dieu. Notre Seigneur dit le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que notre Seigneur est tout aussi orthodoxe, si j'ose dire, que les Juifs qui lui parlent, sauf que notre Seigneur est le Verbe incarné, notre Seigneur n'a pas violé la loi, il s'en est montré le maître. Il a guéri le jour du sabbat, il a commandé aux malades de porter en témoignage de leur guérison leur grabat le jour du sabbat, il n'a pas encouragé à la violation de la loi, il s'est montré en amont de la loi. Il est celui qui a donné la loi à Moïse, par l'intermédiaire des anges. Donc notre Seigneur n'a pas violé la loi, il s'en est montré le maître. Il a accompli la loi, il a défendu la loi divine, contre les traditions humaines qui l'accommodent à la concupiscence ou, disons, à la faiblesse de l'homme. Pourquoi violez-vous le commandement de Dieu, disait notre Seigneur il n'y a pas si longtemps, alors que Dieu vous commande quelque chose et vous accommodez en quelque sorte à la concupiscence votre interprétation de la loi. Le rôle de la loi, quel est-il? Le rôle de la loi est de mettre en évidence la corruption du cœur qui est irrépressible. Voilà le rôle fondamental de la loi. En expliquant la loi sans la charité, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, en expliquant la loi sans la charité, ont produit la propre justice, donc l'ingratitude. Il se trouve que notre Seigneur est venu pour venger la loi de Dieu contre les interprétations qui n'étaient pas forcément toutes fausses, mais qui tendaient à faire de la loi le moyen de la justice, d'une justice qui ne vient pas de la réparation de la faute originelle, mais qui vient en quelque sorte d'une sorte de surimposition sur le cœur corrompu, sur la nature déchue, de quelques éléments de justice qui, d'une certaine manière, ne contribuent qu'à fortifier la concupiscence contre Dieu. Donc notre Seigneur n'est pas un samaritain. Et pourtant, il passe pour un samaritain aux yeux de ceux qui sont incapables de comprendre son innocence. Et ensuite, il passe aux yeux de ces gens-là pour un possédé. Il y a une raison très compréhensible pour laquelle les Juifs appelaient notre Seigneur, ou disaient que notre Seigneur était un possédé. Que Dieu me pardonne en le disant, je ne fais que rapporter leurs propos, ce n'est pas évidemment moi qui le dis. Notre Seigneur passe pour un possédé, pourquoi? Non pas parce qu'il écume comme un possédé, mais c'est une manière ignorante d'expliquer le rapport du Christ au démon. Dès le début de son ministère public, nous voyons notre Seigneur, sous un certain rapport, en lien avec le démon, dialoguer avec le démon, certes pour le combattre, pour être tenté par lui et pour triompher de lui, mais nous voyons notre Seigneur avoir une relation avec le démon très différente de celle des autres hommes. Et donc, ne comprenant pas qu'il s'agit du Rédempteur, on s'imagine qu'il a une affinité avec le démon. C'est pour cela que les Juifs disaient « c'est par Belzébub qu'il chasse le démon ». Et notre Seigneur leur fait voir que c'est absurde, on ne peut pas chasser un démon par le démon. Puisque deux démons s'ajoutent, ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Donc c'est une manière ignorante d'expliquer le rapport du Christ au démon. Le Christ est le triomphateur du démon. Il est celui qui le terrasse, il est celui qui l'écrase, qui écrase sa tête avec son talon. Il commande au démon, et les démons lui obéissent. Et au lieu d'y voir le doigt de Dieu, les Juifs évoquent Belzébub, c'est-à-dire le prince des démons. Je donnerai une analogie qui n'est pas de moi, mais une analogie intéressante. C'est-à-dire que dans l'esprit populaire, le bourreau est un criminel, parce que c'est quelqu'un qui fréquente les criminels, c'est-à-dire qui est en lien avec eux, qui commet des actes de sang, c'est-à-dire qu'il torture, il ôte la vie. Donc le bourreau a quelque chose d'horrible. Et pourtant, le bourreau C'était l'exécuteur des œuvres de haute justice, comme on disait autrefois, c'était son titre officiel, l'exécuteur des œuvres de haute justice. C'est-à-dire que le bourreau a l'air d'un criminel, mais il en est l'exact opposé. C'est-à-dire, il est le destructeur du criminel. Tel est le Christ. Il a l'air d'être constamment en rapport avec le démon, mais c'est parce qu'il est le destructeur du démon. Voyez-vous, mes très chers frères. Évidemment, le bourreau, il n'y a plus de bourreau à notre époque, mais je parle pour des temps traditionnels. Voyez-vous, mes très chers frères, nous disions que le pardon a été très coûteux pour Dieu. Pourquoi ? Pas uniquement parce qu'il a dû donner son Fils unique, d'une certaine manière, si Dieu réfléchissait en homme, ou si nous avons l'impiété de réfléchir à la place de Dieu, nous pourrions dire, oui, mais il a donné son Fils unique pour être crucifié, mais il savait que, étant donné qu'il était Dieu, il savait tout. Il savait qu'il allait ressusciter. Donc, il le donne pour le perdre, d'une certaine manière, mais c'est pour le retrouver aussitôt. D'une certaine manière, c'est vrai, mais ce n'est pas en cela que nous disons que l'accomplissement du pardon a été très coûteux pour Dieu. D'une certaine manière, si nous devons nous exprimer en des termes humains, et nous sommes humains, donc nous avons besoin qu'on nous parle un discours humain, nous dirons que le coût pour Dieu a été non seulement de donner son Fils unique pour des impies, pour le rachat des impies, ce qui est déjà très grand, mais si l'on peut dire beaucoup plus, le coût que Dieu a dû payer, en quelque sorte, d'une certaine manière évidemment, a dû endurer, en quelque sorte, c'est que lui qui est saint a été accusé d'être impur par des impurs qui se croyaient justes. Sous un certain rapport, si on veut parler du coût de la rédemption pour Dieu, c'est essentiellement un coût moral. Est-ce que ça vous ferait plus de paix, ça vous coûterait plus de donner tous vos biens pour enrichir un misérable, ou de donner tous vos biens pour enrichir un misérable qui vous crache au visage? On peut dire que c'est pénible de perdre tous ses biens parce que du coup on devient soi-même extrêmement pauvre. Mais le prix à payer, le coût moral de se dépouiller de tout pour être encore insulté, rend le sacrifice presque insupportable. Donc, si c'est déjà difficile pour nous, d'une certaine manière, comprenons quelque chose de la réalité divine qui nous est par ailleurs incompréhensible. Le saint a été accusé d'être impur par des impurs qui se croyaient justes, donc plus justes que lui. C'est un effet de la chute, mes très chers frères. L'homme cherche un sauveur à son image, qui le sauve sans lui faire honte, c'est-à-dire sans révéler que non seulement il est mauvais, mais qu'il aime sa malice. Or, le Christ découvre la concupiscence. Le Christ est la fin de la loi. Or, la loi a un double but. Elle amène au Christ et elle met en évidence cette chose universellement expérimentée et universellement méconnue de toute l'Antiquité et des Juifs, qui est l'existence de la concupiscence. Même les Juifs actuellement, lorsqu'ils parlent de la concupiscence, parce que tout le monde peut en faire l'expérience, ils disent le mauvais côté. Ils disent le mauvais côté, comme si l'homme avait deux côtés. Alors ils disent c'est le mauvais côté depuis la chute, sans doute, ou en tout cas c'est le mauvais côté de l'homme. Alors sous un certain rapport, c'était une expression qui est intéressante, mais sous un autre rapport, c'est trop imprécis. Il ne s'agit pas du mauvais côté, du mauvais penchant, il s'agit de la concupiscence, il s'agit de cette tendance à s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'à la haine de Dieu. Voilà la définition exacte de l'effet de la chute. Sa conséquence, son corollaire, c'est que l'homme se cherche un sauveur à son image. C'est pour cela que toutes les religions, ou presque toutes les religions, ont un Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, est sauveur. Même certaines de ces figures sont presque parfois à la limite, elles chauffent, si on peut dire, comme on dit, c'était comme disent les enfants, c'est-à-dire que elles sont presque à la limite de décrire au moins un aspect du Sauveur. Mais ce qui leur manque à toutes, sauf évidemment au système sacrificiel dans l'Ancien Testament, ce qui leur manque à toutes, c'est cet aspect que le Sauveur met en évidence, non pas simplement que l'homme a besoin de lui, mais que l'homme qui a besoin de lui ne veut pas de lui. Toutes les religions aiment éperdument leur Dieu Sauveur. Pourquoi dans le christianisme y a-t-il une sorte de répulsion dans le cœur même des chrétiens vis-à-vis du Christ ? C'est que le Christ n'est pas à leur image, c'est que le Christ dévoile l'horrible état de fait de la concupiscence. Le Christ met en évidence la haine spontanée, naturelle et jusqu'à un certain point raisonnable de l'homme déchu contre Dieu. D'où la rage des Juifs, d'où aussi la rage des mauvais chrétiens. On dit la rage des Juifs, certes, c'est presque un euphémisme, mais il se trouve la rage des mauvais chrétiens. Les mauvais chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui, d'une manière ou d'une autre, ne veulent pas entendre parler de la concupiscence, ou alors veulent l'arranger à l'état de quelque chose de naturel, puisque certains même vont dire que si Dieu n'avait pas bourré en quelque sorte l'homme de grâce, de dons surajoutés au moment de sa création, eh bien la concupiscence se serait manifestée d'une façon naturelle, car l'homme est naturellement concupiscent, etc. Voyez-vous, quelle horreur, mes très chers frères, quelle horreur, quel blasphème, quelle ingratitude. Pourquoi le Christ répugne-t-il même aux chrétiens ? C'est parce que le Christ met en lumière l'abîme insondable de corruption qu'est le cœur humain. Notre Seigneur dit quelque chose d'extrêmement important aux Juifs, après le milieu de cet épître. Il dit... C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Comment notre Seigneur peut-il dire que les Juifs ne connaissent pas Dieu, puisque par ailleurs, le plus basique, le plus simple des catéchismes nous dira que depuis Noé jusqu'à Abraham, ou plutôt depuis Noé depuis Abraham jusqu'à notre Seigneur, personne, aucun peuple n'a connu le vrai Dieu, sinon le peuple juif, qu'il appelait son Dieu. Comment notre Seigneur peut-il dire que les Juifs ne connaissent pas Dieu, puisque ce sont les seuls à le connaître ? Il y a là quelque chose d'important à comprendre, mes très chers frères. Et vous, vous ne le connaissez pas. Israël est donc l'unique peuple qui connaît Dieu. Paradoxalement, la connaissance du vrai Dieu, que seul Israël possédait, la connaissance du vrai Dieu, dissociée, séparée de la charité, qui vient de la Nouvelle Alliance, produit une ignorance qui est un aveuglement. Alors vous allez dire, est-ce que ça veut dire que les gentils, la gentilité, les païens, donc, peut-être connaissaient peut-être un peu mieux, donc du coup étaient moins dans une situation moins... Non, la gentilité n'existait pas pour Dieu. La gentilité a été abandonnée par Dieu au moment de l'élection d'Abraham. La gentilité a été abandonnée par Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas à la gentilité que Dieu a donné les 10 commandements, c'est au peuple d'Israël. La gentilité est tombée dans un état de lamentable qui est comparé dans le Nouveau Testament à un état, disons, de maladie chronique, comme la femme hébroïs que notre Seigneur a guéri, comme dans un état de ligature par le démon, comme cette femme qui était tenue courbée par le démon depuis 18 ans, que notre Seigneur a guéri dans une synagogue. Voyez-vous, mes très chers frères, cette gentilité, bien sûr, Dieu allait lui faire prêcher l'Évangile, mais longtemps après qu'il se soit concentré sur le peuple d'Israël, si je puis m'exprimer en des termes, tellement humains. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, la gentilité, n'en parlons même pas. Elle ne connaissait rien, elle est un aveugle-né. Maintenant, les Juifs ont connu la lumière, mais ils ont préféré les ténèbres à la justice, les ténèbres de la justice légale. C'est-à-dire que les Juifs étaient porteurs de la lumière, et pourtant, ils ont préféré les ténèbres. Les ténèbres, non pas du paganisme, que Dieu les garde, puisqu'ils haïssaient, ils avaient fini par les païens, et ils avaient compris qu'il fallait cesser d'adorer leur Dieu. Et à un certain moment, ils ont cessé d'adorer les dieux païens. Maintenant, ils ont préféré les ténèbres, et quelles sont ces ténèbres ? Les ténèbres de la justice légale. Au moment où les Juifs se sont définitivement détournés des idoles et qu'ils ont commencé à mettre en pratique sérieusement et avec un très grand désir les commandements de Dieu, ils sont entrés dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que la justice ne vient pas de la loi, elle vient de la grâce. Notre Seigneur, dans ce passage qui est très difficile à comprendre, si nous n'avions pas la tradition orale, il dit encore, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, qu'est-ce que ça signifie ? Il dit, je serais semblable à vous un menteur. Si je disais que je ne le connais pas, comment notre Seigneur pourrait-il dire qu'il ne connaît pas son Père ? Comprenez bien. Si je disais que je ne le connais pas, signifie si j'envisageais la loi comme vous le faites, c'est-à-dire comme un moyen donné par Dieu à l'homme pour devenir juste, alors je prononcerais comme vous, je proférerais comme vous, un contresens déjà dénoncé par Moïse lorsqu'il dit « Jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné un cœur nouveau pour obéir à ses commandements. » Et il prophétise la venue du Messie de la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, mes très chers frères, si je disais que je ne le connais pas, c'est-à-dire si j'allais dans votre sens, si j'abondais dans votre sens, si je disais « Vous avez raison de vouloir plaire à Dieu en obéissant à la loi, maintenant faites un peu plus ceci, faites un peu moins cela et vous y arriverez. » Non, mes très chers frères. Voyez, s'il disait cela, si notre Seigneur se mettait à parler un discours qui va dans notre sens, ça serait l'équivalent du fait qu'il dise « Je ne connais pas Dieu. Je serai semblable à vous, c'est-à-dire à un menteur. » Le Christ n'est pas venu flatter les hommes, nous l'avons dit. Il n'est pas venu leur apporter une aide. Il n'est pas venu les aider. Il n'est pas venu leur rendre plus facile l'obéissance au commandement, comme disait l'infâme Pélage. La grâce du Christ sert à rendre plus facile l'obéissance au commandement. Il n'est pas venu leur apporter une aide. Il n'est pas venu leur parler de l'amour de Dieu, comme disent les hérétiques actuels, les néo-catholiques, etc., qui disent que le Christ est venu essentiellement pour parler de l'amour de Dieu. Dites que le Christ est venu pour parler de l'unicité divine et vous êtes musulmans. Il n'est pas venu pour parler de l'amour de Dieu. Il est venu pour accomplir la loi et réconcilier par son sang les élus avec son Père. Et à ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre, à ceux qui ont été réconciliés par son sang avec Dieu, alors il parle, il enseigne sur l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu aime, dont Dieu le Père aime Dieu le Fils, et dans l'unité du Saint-Esprit, et cet amour dont les enfants de Dieu sont capables, dans l'absolu, c'est-à-dire qu'ils sont capables de recevoir et de renvoyer vers leur Père. Il est venu pour accomplir la loi et pour réconcilier par son sang les élus avec son Père. Le pardon, disions-nous, le pardon que Dieu nous donne est gratuit, il est totalement gratuit, il a été très coûteux pour Dieu, certes, nous en avons eu un petit aperçu, mais il est totalement gratuit, c'est vrai. Maintenant, rajoutons ceci, parce qu'il est gratuit, il est donné gratuitement à ceux à qui Dieu veut. C'est notre troisième point. Ils prirent donc des pierres pour les jeter sur lui, mais notre Seigneur se cacha et sortit du temple. Notre Seigneur s'est caché plusieurs fois, et nous l'avons vu dimanche dernier, lors de la multiplication des pains, il s'est caché lorsque les Juifs ont voulu l'enlever pour le faire roi, il s'est caché lorsqu'ils ont voulu le lapider. Si Dieu avait payé à lui-même le prix de notre rançon, comme il l'a fait, mais en laissant toutefois à tout un chacun le choix d'en faire bon usage, il aurait profané lui-même son œuvre. D'ailleurs, mes très chers frères, n'en doutons pas, car c'est une chose qui est très, très évidente et qui nous est enseignée en particulier par notre Saint-Père Augustin. N'en doutons pas, cette œuvre, si elle avait été accomplie par le Christ, tout entière, si le Christ était mort, né, mort, ressuscité des morts le troisième jour, il était monté aux cieux, et qu'il s'était contenté de proposer son salut aux hommes, cette œuvre, ce salut, aurait été sans effet. Pourquoi ? Parce que l'homme déchu ne veut pas être sauvé. Il ne désire éventuellement être sauvé que moyennant la sauvegarde de sa concupiscence, c'est-à-dire de l'amour déréglé, désordonné de lui-même. Donc personne n'aurait jamais profité du salut que Dieu a accompli pour nous, parce que personne n'en voudrait. C'est un salut qui répugne à la nature humaine déchue. Tout autre salut lui plaît. Elle aime bien même dire, la nature déchue, elle aime bien même dire qu'elle est infiniment dévote de tel ou tel sauveur, de tel ou tel Dieu, parce qu'elle lui doit tout, etc. Pourvu qu'elle n'ait pas à reconnaître que sans lui, elle ne peut rien, et qu'elle n'est que corruption, abîme d'iniquité et amour de l'iniquité, alors elle veut bien être reconnaissante et dévote à n'importe quel sauveur qui passe par là. Le pardon, voyez-vous, mes très chers frères, le pardon que Dieu donne est un pardon gratuit dans les deux sens. Dieu l'a réalisé gratuitement, parce qu'il n'y a rien en nous qui l'a persuadé de le faire, et il le donne gratuitement. Et il est important d'en parler, avec raison, avec discrétion évidemment, mais spécialement en ce dimanche de la Passion. Le pardon est donc gratuit, disons-nous, mais Dieu en reste le seul dispensateur. Il est gratuit et il est donné gratuitement à qui Dieu veut. Si Dieu sauvait tous les hommes, des fois on se dit, mais pourquoi est-ce que si Dieu est tellement bon, tellement puissant, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tous les hommes? Je vais vous la dire, la raison, mes très chers frères, non pas moi, mais la tradition. Si Dieu sauvait tous les hommes en masse, le ciel serait rempli d'ingrats. Dieu fait lancer son filet, le filet de ses pécheurs, depuis la barque, sur tous les hommes, de telle sorte que toutes sortes de poissons sont ramenés au rivage, toutes sortes de poissons finissent dans la barque de Saint-Pierre, toutes sortes de poissons rentrent dans le royaume de Dieu qu'est l'Église militante. Mais à un certain moment, il y a un tri. Les bons sont mis dans des vases et les autres sont rejetés. Si Dieu sauvait tous les hommes, le ciel serait rempli d'ingrats, serait rempli de gens qui se plaindraient d'être là contre leur volonté. Dieu n'avait aucune obligation de sauver. Lorsque notre premier père a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu dans le paradis terrestre, Dieu ne lui devait plus rien. Alors vous allez dire, et le libre arbitre de l'homme? Oui, bien sûr, l'homme a un libre arbitre, il est même extrêmement puissant. Je dirais même que le libre arbitre de l'homme est infaillible, tout puissant, et personne, ici-bas, ne peut aller contre lui. C'est-à-dire que pour se damner, l'homme est capable d'inventer exactement et de découvrir, même un homme, un bébé qui aurait été abandonné tout seul, si, par hasard, sur une île déserte, serait capable, une fois devenu un peu plus grand, d'inventer des moyens pour se damner par son propre libre arbitre. Le libre arbitre de l'homme est tellement puissant, tellement réel, c'est une erreur de penser que le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre est tellement puissant que si ce n'est pas Dieu lui-même qui le rectifie, qui le guérit, qui le redresse, qui le vivifie, il donne infailliblement l'homme. Donc bien sûr, qui nie que le libre arbitre existe? Mais nous affirmons qu'il y a une volonté plus forte que le libre arbitre, qui est la volonté salvifique de Dieu, qui, pour des raisons qui nous échappent totalement et que nous ne pouvons qu'adorer, donne à certains, plutôt qu'à d'autres, de vouloir, comme disent les pères, de vouloir être sauvés. Ce qui n'est pas un petit vouloir, puisqu'il s'agit tout simplement d'aller contre la tendance désormais naturelle, co-naturelle depuis la chute, à s'aimer soi-même jusqu'au mépris et la haine de Dieu. Voyez-vous, mes très chers frères, le libre arbitre de l'homme est très puissant, mais heureusement, la volonté de Dieu est plus grande et plus forte que lui. Tout ce que le Christ veut s'accomplit. Et si, par malheur, ce n'était pas le cas, personne ne serait sauvé, parce que personne ne veut être sauvé. Voyez-vous, pour bien comprendre le prix de notre rédemption, mes très chers frères, pour bien comprendre quel est ce don de Dieu qui s'appelle le salut, la rédemption par le sang du Christ, alors, mes très chers frères, il faut regarder le salut comme inaccessible. Il faut regarder la porte du ciel comme fermée. Il faut regarder la face de Dieu comme terrible et inexorable à notre encontre. Et alors, à notre encontre. Et alors, mes très chers frères, considérant que le salut n'est pas à notre portée, considérant que la porte du ciel est fermée, considérant que la face de Dieu est dure et terrible contre nous, alors il faut demander ce salut avec crainte et insistance, il faut frapper avec persévérance, il faut demander de tout son cœur, il faut dire « Seigneur, sauvez-moi de moi-même, arrachez-moi aux griffes de mon libre arbitre, que votre volonté toute puissante et souveraine, Seigneur, s'exerce sur moi pour mon salut. » Ne m'abandonnez pas à moi-même, Seigneur notre Dieu, qui avait tout accompli pour le salut de ceux qui doivent être sauvés gratuitement par le sang du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.